Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Culture Média continue pour la partie culture de l'émission, évidemment, avec Patricia Petitbon. La cantatrice revient avec un nouvel album, L'amour, la mort, la mer. Elle revient avec son esprit. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu dans quelques instants. Et puis, dans les indispensables, nous sommes mardi, donc la veille de mercredi, les sorties ciné. 5 films choisis par Mathieu Charrier. Enfin, 2 anniversaires dans le monde du jeu vidéo. On va fêter ça avec Clément Le Saffre. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Vous n'êtes pas venu seul. Bonjour non. Julie Debonnard.
Bonjour.
Vous l'aviez promis, vous aviez dit, vous êtes comédienne sur TF1. Pour un prochain rôle que vous allez avoir, vous serez animatrice radio. Et vous êtes venue ici en stage.
Tout à fait, en stage d'observation. Je suis voilà. Très discrète et observée. Voilà.
S'il vous plaît, aucun mot. On n'est pas là pour se marrer, je vous
Elle
préviens.
Avec moi, on en prend soin.
Hélène, on commence ce journal, votre journal de la culture, en prenant la direction de la Dordogne. Les habitants de Sarlat sont chanceux.
Oh que oui, et vous allez voir qu'on va vouloir déménager dans ce studio, surtout ouais. Céline et moi, je pense. Et oui, puisque depuis quelques jours, ils accueillent 3 nouveaux habitants. Ridley Scott, Ben Affleck et Matt Damon.
Non,
et oui,
ça.
Rien que ça. Ils sont là-bas pour le tournage du film The Last Duel. Ils ont enchaîné les scènes, notamment au château de Bénac. Ensuite, ils iront au château de Fénelon, puis à la Bastide de Montpazier. Alors certains les ont aperçus dans les restaurants côtés du coin. Ils acceptent avec grand plaisir les selfies, donc allez-y. Ils sont sur place jusqu'au mois de mars. The Last Duel est une adaptation du roman français Le Dernier Duel, Paris, 29 décembre 1386 d'Éric Jagger.
C'est très joli Sarlat en plus.
C'est génial, hein. Je suis très content pour eux, pour les habitants et pour les restaurateurs de Sarlat.
Exactement.
On continue avec le cinéma, cette fois il est question d'un ciné-concert.
Du film de l'année, Philippe. Rendez-vous à la scène musicale le 13 mai prochain pour le ciné-concert du Joker. Oui, le film avec Joaquin Phoenix qui a remporté 2 Oscars, meilleur acteur donc, mais surtout meilleure musique originale. Elle est signée Hildur Guanadotir. Pardon. Vous allez pouvoir vivre ou revivre la performance incroyable de Joaquin Phoenix, le tout avec un orchestre en live.
On passe à la musique, quoi qu'il y en avait dans nos oreilles, c'était très agréable, avec une annonce surprise, elle est signée Adele.
C'est un petit cadeau du début de semaine. La chanteuse Adele a annoncé la date de sortie de son prochain album. Alors, je vous avais dit quand même que quelque chose était en train de se préparer, sans démenti, ouais. Philippe, vous avez vu. On savait que...
Non, général, c'est quand les gens arrêtent qu'ils démentent ensuite, avec vous.
Mais pas continue, c'est vrai. Ouais. On savait que son grand retour après 5 ans d'absence était pour 2020. Alors, le 4e album sortira en septembre prochain. Elle l'a annoncé lors du mariage de sa meilleure amie. Et je rappelle que son dernier album, quand même sorti en novembre 2015, s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Rien que ça.
Une grande première désormais, le Metropolitan Opera New York va accueillir la première chanteuse trans.
Et oui, Lucia Luca, baritone. Elle se produira sur la scène du Lincoln Center lors de la saison 2020-2021. Elle a 39 ans et depuis ses débuts, elle endosse des rôles masculins avec sa voix, même avec sa transition vers un corps de femme. On l'écoute. Alors Lucia Luca n'a jamais souhaité abandonner sa voix de baryton. Elle a d'ailleurs déclaré « Je pense que je pourrais changer ma voix en contralto, mezzo ou soprano. Mais combien de temps cela prendrait-il et quelles seraient mes chances d'être recrutée ?» En 2019, elle avait été la première artiste transgenre à être choisie dans un opéra professionnel aux États-Unis pour interpréter le rôle titre d'une œuvre classique. C'était Don Giovanni de Mozart. Alors Lucia Luca estime que les personnes trans sont de plus en plus considérées. La saison prochaine, elle sera donc à l'affiche de Billy Budd de Benjamin Britten, opéra d'homme, avec pour la première fois une femme sur scène.
Et je demanderai tout à l'heure à notre invitée Patricia Petitbon ce qu'elle pense de ceci puisqu'elle est
oui,
elle-même
exactement.
Soprano coloratour. On va terminer par de la mode et par une bonne nouvelle.
En rouge et noir.
La La chanson a été choisie par Nicolas Souvent, le réalisateur, je tiens à le dire. Alors, Monsieur Semelle Rouge, j'ai nommé Christian Louboutin, est à l'honneur dans une exposition qui démarre le 26 février à Paris. Ça s'appelle L'Exhibitionniste, complètement dédié à sa carrière. 30 ans de carrière quand même pour Christian Louboutin. Alors, il s'est beaucoup investi dans ce projet. Il a su révéler beaucoup de lui-même et de ses inspirations. Certains souliers exposés n'ont jamais été présentés au grand public. On y découvrira aussi ses plus prestigieuses collaborations, notamment avec le réalisateur David Lynch. Alors, l'exposition a lieu dans le 12e arrondissement de Paris, là où Christian Louboutin est né. Autoresources.
Merci beaucoup, Hélène Manarino. Et vous me disiez tout à l'heure que la comédienne Julie Debona allait faire une pause dans sa carrière. Julie, vous confirmez ?
Je dément.
Voilà. C'est bien du Hélène Manarino. Vous restez avec nous pour le portrait inattendu.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Patricia Petitbon.
Bonjour Patricia Petitbon.
Bonjour.
Vous êtes cantatrice, vous êtes soprano coloratour, je dis ça pour les puristes, connue dans le monde entier pour votre virtuosité vocale, 3 victoires de la musique classique. Vous êtes également réputée pour votre jeu d'actrice sur scène et à tort ou à raison, dans le milieu, vous avez une réputation sulfureuse. Et là, vous sortez un nouveau disque après 7 ans d'absence dans les bacs, comme on dit, L'amour, la mort, la mer. Très joli titre, c'est quoi l'idée de ce disque ?
Eh bien, l'idée, c'est une idée métaphorique de cette trinité, des trois mots qui s'encastrent les uns aux autres. Et c'est surtout prendre le large pour se retrouver intérieurement, pour avoir une sorte d'introspection sur le risque, sur les épreuves de la vie, comme Ulysse qui prend le large.
Là, vous auriez pu me raconter un livre, mais en fait, c'est de la musique. Alors, musicalement, ça se traduit comment, ce que vous venez de nous dire ?
Musicalement, ça se traduit par le bruit de la mer, parce que tout est son en fait, c'est le son qui raconte.
Vous savez quoi ?
Oui.
Je vous interromps parce que ça commence comme ça, on va entendre un premier extrait, et quand je vous disais qu'elle n'était pas comme les autres, Patricia Petitbon, le titre qui ouvre cet album s'appelle « Trois chansons bretonnes tirées la rencontre », rien que le titre, j'avais jamais vu ça, ça ressemble pas du tout à de l'opéra ou même à un récital classique, ça commence, vous l'avez dit, par des bruits de la mer. Je me permets de dire que j'interromps maintenant ce titre parce qu'on va l'entendre avant l'accordéon, parce qu'on va l'entendre en entier dans quelques instants. Et on est toujours frappé. Moi, je suis toujours frappé quand je vous vois et que j'entends le son. J'arrive pas à croire que ce son sorte de ce corps-là.
Ah bon ?
Oui.
Pourtant, c'est un son très simple.
Oui, oui.
C'est pas du tout opératique, justement, parce que c'est une mélodie, c'est une chanson.
Ouais.
Donc moi, j'ai voulu dans ce disque, vous voyez, une incarnation sonore assez pure,
ouais,
assez proche aussi du micro.
Oui. Mais je veux dire, le sens de ma question complètement.
Oui.
Je m'attendais pas à devoir expliquer ça, mais ce son est tellement pur, tellement sinusoïde, et quand je vois là une sorte de Janis Joplin, j'adore ce contraste. Il y a des compositions contemporaines, des reprises, des adaptations de John Lennon, il y a ce qu'on appelle des mélodies françaises, de Debussy, de Fauré. Pour qui ne connaît pas, c'est quoi la mélodie française ? C'est pas tout à fait de la musique classique, c'est pas tout à fait opératique, c'est pas tout à fait de la chanson. C'est quoi de la mélodie française ?
La mélodie française, ce sont d'abord de grands compositeurs, hein, des compositeurs, on va dire, savants, mais qui peuvent utiliser des thèmes populaires et surtout qui utilisent des textes, des poésies. Et qui les mettent en musique, voilà, dans un habit beaucoup plus simple que ne le serait l'opéra où on a un orchestre symphonique. Donc souvent, la mélodie, c'est une voix et un piano.
Exemple, Clair de Lune, c'est pas la suite Bergamasque, c'est du Gabriel Fauré. Patricia Petitbon, comment vous avez choisi les 22 compositions de cet album ?
Eh bien, je les ai choisies en improvisant, en vérité.
C'est-à-dire ?
Eh bien, je me suis dit, tiens, j'aime ça, avec ma pianiste Suzanne Manoff, avec qui je travaille depuis plus de 20 ans.
Ouais.
Donc c'est une complicité, hein, c'est mon poumon, c'est ma deuxième moitié de poumon. Et donc on travaille beaucoup sur l'improvisation, sur l'intuition. Et autour de cela, bah, se crée une histoire sonore que nous inventons toutes les deux.
Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé à l'écoute. Vous parliez des textes dans les mélodies françaises, par exemple autour de Forêt, mais il y a aussi des chansons sans aucun texte. Pourtant, vous êtes là.
Mm-hmm.
Je vais mal le prononcer. C'est une composition de Jan Tiersen.
Oui.
Le titre, c'est quoi ?
C'est Lokveltas. En fait, ça fait partie d'un cycle qu'il a écrit autour de l'île de Ouessant. Donc, ça parle vraiment de la mer et des endroits de l'île de Ouessant.
J'aime bien le mot parler parce qu'il n'y a pas de parole.
Ah oui.
Il n'y a pas de parole, mais c'est Patricia.
Ben on l'a mis à notre sauce, d'ailleurs. On fait un petit coucou à Jan Tiersen.
D'accord. Il nous écoute, évidemment. J'adore le mix et on entend même les touches de l'accordéon.
Oui.
Et Hélène Manarino me fait un signe pendant qu'on écoutait ça. Et elle se touche l'avant-bras. Elle est en horripilation au sens propre du terme. Elle a les
exactement.
Poils qui se dressent tellement que ça la touche. Et nous aussi.
Ouais.
Moi, j'ai écouté ça hier soir. Vous avez presque les larmes aux yeux, Hélène.
Bah, oui, oui.
Hein, c'est ouais. très, très, très émouvant.
Mais ça s'écoute le soir surtout.
Exactement.
Non,
et ça s'écoute, je le dis à nos auditeurs et auditrices, ça s'écoute dans la longueur. C'est toujours très difficile comme exercice de faire entendre des morceaux de quelques dizaines de secondes. Mais c'est juste absolument somptueux. Vous restez avec nous, Patricia Petitbon.
Oui, la cantatrice Patricia Petitbon qui est notre invitée. Et dans un instant, on va tout savoir de vous, Patricia Petitbon. Et ça, c'est grâce à Hélène Manarino qui, après une enquête minutieuse, va nous dresser votre portrait inattendu dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Patricia Petitbon, je vous présente Hélène Manarino, que vous avez déjà vue et vous avez déjà vu l'effet que vous faisiez sur elle grâce à votre voix.
J'espère faire la même chose sur vous avec mon portrait.
Vous mettez pas la pression,
non,
Hélène.
Pas du tout.
Allez-y, allez-y.
Bonjour, Patricia Petitbon.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous, alors pas tout. Sans surprise, il va être question de grandes voix aujourd'hui, la vôtre, celle des autres aussi. Bref, vous l'avez compris, celles qui ont marqué votre vie. Et on commence par la voix d'origine, celle qui vous a donné envie de chanter. La voix de votre arrière-grand-mère Augustine. Elle aurait voulu être chanteuse et elle fredonnait ça que vous écoutiez attentivement.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guet rossignol et merle moqueur.
Le temps des cerises, qu'elle chantait dans son fauteuil que vous avez ensuite récupéré. Alors,
ouais.
Oui, oui, oui.
Alors très vite, ce goût de la chanson dont vous êtes venue, toute petite, vous enchaînez les spectacles devant vos parents où votre voix s'élevait sur le titre « J'aime la galette ». Vous étiez debout sur une chaise et il fallait que tout le monde vous écoute, sinon hop, vous tapiez du pied quand même. Votre voix toute ouais. tracée, vous la travaillez aussi en écoutant ça.
Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, quand tu chantes, ça va.
Nana Mouskouri, évidemment, ou encore la grande Maria Callas. Alors, aucune voix ne vous faisait peur.
Même on va tous chialer, chialer hein. Je vous dis juste ça. Comme ça. Hein.
Mais oui. Merci pour moi, jouer un dalmatien. J'ai un portrait à finir. Hein. À l'âge de 5 ans, par exemple, à l'école, lorsqu'il fallait apprendre un rôle pour une pièce de théâtre, vous appreniez tous les rôles de la pièce, des pièces que vous jouiez pour votre grand-père, dans votre grande maison provençale. Vous fermiez la porte et il était le seul à avoir le droit de vous écouter, surtout. Alors Patricia Petitbon, vous avez très rapidement donc eu un public dès votre plus jeune âge. Vous demandiez à votre sœur de mettre des disques vinyles, la face B. Vous chantiez par-dessus et votre sœur devait vous dire si c'était bien ou si c'était pas bien, tout simplement.
Vrai.
Mon Dieu, ouais, j'ai tout oublié.
Ah mince ! Mais tout est
merci
vrai.
Merci de me le rappeler.
Oui, mais je suis là pour vous rappeler votre vie. Sa voix comptait beaucoup. Alors, Patricia, la voix de la bêtise, vous ne l'avez jamais vraiment eue. Bon, vous avez imité la signature de vos parents dans le carnet de correspondance, d'accord. On peut le dire ce matin. Est-ce qu'on peut l'avouer enfin?
On l'a tous fait.
On l'a tous fait. Vous étiez une très bonne imitatrice de vos profs et de Denise Fabre aussi.
Non.
Et puis, il y a eu ce jour où, petite, vous teniez la carte routière dans la voiture, fenêtre ouverte, la carte a volé et elle est venue se plaquer sur le pare-brise. Très pratique pour la route, grâce à vous, Patricia. La voix de l'insulte, jamais. Alors, vous avez une insulte.
Ah bon, c'est laquelle?
Quel connard.
Hein? Non,
ah, c'est tout.
Apparemment, c'est quoi votre insulte? Ça.
Non, moi, c'est purée de nouilles.
Ah bah, oh, purée de nouilles. Moi, on m'a dit quel connard. Moi, j'ai été vulgaire direct, hein. Pour rien. Et puis, surtout, il y a une voix contre qui vous vous êtes merveilleusement bien vengé. C'est Casse-toi. Alors, Casse-toi, c'était un peu le bad boy du lycée. L'attachement.
Je sais que ces histoires m'ont dit, mais comment vous savez tout ça?
Ah, mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Allez-y, Hélène.
Donc, Casse-toi. C'est le bad boy du lycée. Et c'est l'attachion. Il disait « casse-toi » à tout le monde. D'où ce surnom, « casse-toi ». Ouais. « Casse-toi » qui vous a déchiré un devoir de maths. Qu'avez-vous fait? Vous avez dessiné des canards en papier que vous avez découpés pour les disposer tout autour de sa mobilette qui était devant le lycée. Donc à reproduire chez soi parce que c'est une très bonne vengeance.
C'est vrai. Il s'est tapé la honte.
Il s'est tapé la honte. Ouais. Voilà.
À l'époque, c'est mignon. Hein.
Ouais. Oui, c'est mignon. Alors Patricia Petitbon, pour préparer votre voix aujourd'hui avant un concert, vous avez besoin de vous isoler, de boire du coca. Vous êtes un peu cuisinière, petite surtout. Vous prépariez le pain perdu. Aujourd'hui, vous aimez les choses douces et confortables. C'est pour cela que votre intérieur est rempli de coussins, plaids, fauteuils moelleux entre toutes vos valises. Car vous avez des valises énormes. Quand vous partez, vous emmenez toute votre vie, notamment des livres qui ne vous servent à rien. Alors Patricia, votre voix a aussi très souvent été récompensée. Notamment, vous avez reçu finalement le plus beau des hommages. Le conservatoire de votre ville natale porte votre nom suite à un vote. Un conservatoire où vous avez étudié et cela vous a beaucoup touchée. Il y a votre voix. Vous avez aussi été celle des autres, notamment lors d'un concert en montagne. Votre professeur de chant était très fatigué et il fallait qu'elle fasse une note très compliquée à la fin du concert. Vous vous êtes cachée, Patricia, et vous l'avez faite à sa place.
Mon Dieu, mais c'est quoi
cette
histoire?
C'est pas vrai, c'est
je
dingue.
Je ne sais pas, je sais quoi cette histoire.
Mais c'est comme Johnny.
Mais je m'en souviens pas du tout. Ah,
je vous assure que c'est vrai.
Mais qui vous a raconté
mais
ça?
Mais c'est la prof.
Mais personne ne s'est jamais rendu compte de rien et vous êtes venu saluer le public, mais le public ne comprenait pas.
Dingue.
Alors pour terminer, Patricia, votre voix procure des moments assez particuliers. C'est ce que vous vivez régulièrement avec votre chien Boubou.
Oh
alors oui, ça vous souvenez. Il a l'habitude.
Vous avez un chien Boubou quand même.
Ouais, j'ai un cocker qui chante.
Voilà.
Ouais.
Et bien justement, ouais. Il a l'habitude, voilà, de partir sans rien dire et de revenir dans des états épouvantables. Mais quand vous chantez, ce chien vous accompagne aussi. Et nous avons les sons.
Non.
Nous avons les sons de votre duo entre vous et votre chien en exclusivité. On vous a fait un petit medley. Écoutez. Mais c'est vraiment vous et votre
mais
chien.
Mais c'est génial.
Oui, tout à fait. Oui.
Mais
oui.
D'où vient ce son?
Il résout même des accords.
Voilà. Donc ouais. Même, c'est assez
dingue. Il résout même des accords. Il est extraordinaire.
Alors, en plus d'être impressionnante, votre grande voix est aussi magique. La voix était donc toute tracée.
Merci beaucoup, Hélène. Bravo. Réaction?
Vous êtes l'inspecteur Colombine.
Je suis votre voix des souvenirs.
Exactement. Et on embrasse Boubou. On embrasse Boubou qui nous écoute.
Je ne suis pas sûre. Ah mais il écoute. C'est vrai qu'il écoute la radio aussi.
Oui. C'est vrai.
Oui oui.
Mais c'est complètement dingue.
Oui il est dingue. Oui oui.
C'est votre chien.
C'est mon chien.
Tel chien tel maître.
Oui.
Super.
Patricia Petitbon est notre invitée. Avec elle dans un instant on découvrira nos indispensables du jour. On va parler notamment sortie ciné avec Mathieu Charrier dans un instant sur Europe 1. Et j'espère Patricia Petitbon que ça va plaire à votre chien Boubou.
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'est l'heure, Philippe, de nos indispensables du jour. Dans un instant, on va parler d'un jeu vidéo, plusieurs jeux vidéo même, avec Clément Le Saffre. On va parler des sorties ciné également avec Mathieu Charrier. Tout ça avec notre invitée, la cantatrice Patricia Petitbon, qui revient avec un nouvel album, L'amour, la mort, la mer, qui est sorti le 14 février.
J'en aurais pas parlé s'il n'y avait pas le mot la mort dans le titre de l'album. Il y a quelques temps, Patricia, vous avez vécu une expérience très difficile. Votre mari, en l'occurrence le violoniste Didier Lecoud, qu'on aimait beaucoup, est décédé quasiment devant vous. C'est pas là la question. vous dites qu'ensuite, votre voix avait un ADN supplémentaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Qu'est-ce que c'est, ben, c'est très simple, en fait. Je pense qu'on porte en nous nos morts, on les porte cellulairement en nous. Il y a quelque chose qui, voilà, qui s'agrippe à nous, malgré nous. Et on vit, voilà, avec la perte, mais en même temps avec l'héritage de ce qu'ils nous ont laissé comme amour.
Mais vous le sentez physiquement dans la voix ? C'est ça qui m'a frappé.
Oui, bien sûr.
Évidemment qu'on a nos morts avec nous, toujours,
oui,
par la pensée.
Mais oui, oui, évidemment, parce que ça modifie notre trajet d'existence, notre parcours, notre nous avant n'existe plus. C'est-à-dire qu'on a des petites morts lorsqu'on perd des gens très proches dans nos vies. On est tous à perdre des gens très très proches et d'autres vraiment qui vivent des choses terribles. Eh bien, il y a un avant et un après.
Cette idée, vous avez dit une phrase très très belle au journal La Croix. Vous avez dit « Ce métier de chanteur ou de chanteuse nous situe entre le cortège des vivants, le public, et celui des morts, les compositeurs, on ne saurait mieux dire. » C'est pas facile d'enchaîner avec ça, Mathieu Charrier, mais c'était tellement intéressant et tellement important à parler de cinéma avec vous, les sorties ciné de demain. Vous démarrez avec le nouveau film de Clint Eastwood, Le cas Richard Jewell. C'est un film européen, c'est inspiré d'une histoire vraie, Mathieu.
Oui, vous savez, on est pendant les JO d'Atlanta en 96. Richard Jewell, notre héros, c'est une sorte de vieux garçon obsédé par la rigueur, par l'ordre, et il est recruté comme agent de sécurité. C'est un peu comme si son rêve se réalisait. Alors, casquette vissée sur le front, il va prendre son rôle très au sérieux et découvrir, lors d'un concert pendant ces Jeux Olympiques, un sac sous un banc. Il alerte tous les policiers sur le fait qu'il pourrait s'agir d'une bombe. Au début, ils le prennent un peu de haut et en fait, Richard Jewell avait raison. Ils s'en rendent compte un peu tard, mais parviennent quand même à évacuer un maximum de personnes. Il n'y aura que, si je puis dire, deux morts. Plusieurs dizaines de vies ont été épargnées. Alors évidemment, Richard Jewell est considéré comme un héros. Il enchaîne les interviews en rappelant sobrement qu'il n'a fait que son devoir. Mais de jour en jour, le trouble s'installe, d'autant qu'un journal local met en une la possibilité que Richard Jewell pourrait en fait être le poseur de bombes. Début de sa descente aux enfers, sa vie va être complètement ruinée. Écoutez Clint Eastwood.
If they didn't get somebody quick,
s'ils ne trouvaient pas un coupable rapidement, si l'enquête n'était pas bouclée très vite, c'est toute l'organisation des Jeux Olympiques qui s'écroulait. Alors ils ont attrapé quelqu'un et c'est tombé sur Richard Jewell. C'est quelqu'un de très banal, qui fait ce qu'on lui demande de faire, qui a toujours voulu être policier ou agent de sécurité. Mais bon, finalement, ils ont attrapé le terroriste. 6 ans plus tard, ils l'ont eu.
Et c'est un film intéressant à bien des égards. Déjà parce que ce Richard Jewell, il a vraiment un physique assez moqueur. Vous voyez, on pourrait se moquer. Il est obèse, il n'est pas très beau, il ne s'exprime pas très bien. Donc quand on va commencer à le soupçonner, tout le monde pense, c'est un frustré, il a voulu avoir son heure de gloire. Je pense que si ça avait été un grand et beau garçon, ça serait passé un petit peu différemment. Et puis, il y a ce journal qui le met en une pour sortir le scoop avant tout le monde, quitte à se tromper, ce n'est pas très grave après tout. Prédiction de ce que l'on vit un petit peu aujourd'hui avec ces chaînes d'infos en continu qui sont obligées de brasser de l'info et cette course au scoop. Je dis quitte à se tromper parce que, comme vous l'entendiez dans l'interview de Clint Eastwood, Richard Jewell, il va finalement être innocenté. Le vrai coupable va être arrêté 6 ans plus tard. Mais Jewell, il va jamais vraiment s'en remettre. Il va mourir prématurément à l'âge de 44 ans. Clint Eastwood, depuis 10 ans, il filme, vous savez, ses héros anonymes. Il y a eu American Sniper, il y a eu Sully, il y a eu le 15h17 pour Paris. Et donc maintenant, ce Richard Jewell, que moi je trouve le plus réussi de tous ses films, il y a l'histoire qui est incroyable. Il y a le suspense vraiment jusqu'à la dernière seconde, même si on en connaît la fin, si on connaît l'histoire vraie. Bref, c'est un très très bon thriller à ne pas rater.
Bah, tous les gens qui viennent de vous entendre, ils connaissent l'histoire vraie.
Documentaire
maintenant, un très bon doc que vous nous recommandez,
ouais,
Mathieu.
Il faut défendre les documentaires, notamment quand ils sont bons. Alors, c'est une plongée dans le quotidien, vous savez, de la prison des Baumettes à Marseille. Il y a ce panneau sur l'écran au début du film. En 2012, le contrôleur général des prisons a qualifié les conditions de détention dans cette prison comme étant inhumaines. Alors les deux réalisateurs ont demandé à y aller y tourner, ils ont mis 3 ans pour obtenir l'autorisation et finalement ils ont pu glisser leur caméra pendant 25 jours entre 2016 et 2018, plusieurs jours à chaque fois. Alors on y découvre les portes crasseuses, les peintures qui s'écaillent, ce gardien qui dit à un détenu « Oh vous savez, vous avez une cellule très potable ». Ça résume tout, extrait de la bande-annonce.
Vous m'avez parlé un petit peu brièvement de votre maman là.
Je me suis dit comme avant, elle travaillait dans la police et tout, je me suis dit je vais faire un gros boxon en volant des trucs, comme ça au moins elle va attendre de parler de moi et elle sera bien obligée de reprendre contact à un moment ou à un autre, et c'est ce qu'elle a fait quoi.
Vous êtes une personne vulnérable, vous êtes fragile, on s'en prend facilement à vous. Enfin bon, vous n'êtes pas un enfant de cœur non plus, hein.
Non, après j'ai
non,
pas dit ça.
Vous ne seriez pas là.
Ouais. La dernière fois que j'ai vidé la douche, je tape, après un morceau qui tombe en bas au rez-de-chaussée, un morceau de pierre. en train de s'effriter la prison.
Voilà, elle est en train de s'effriter la prison. Alors c'est un documentaire, il n'y a pas de voix off, hein. Ce sont les images qui parlent d'elles-mêmes, les détenus qui témoignent. On est en immersion avec ces détenus qui ont volé des voitures, tués pour certains. Il y a 2000 détenus à la prison des Baumettes, dont la moitié a moins de 30 ans, ce chiffre est impressionnant. Franchement, c'est un documentaire poignant, passionnant, allez le voir, ça s'appelle Des Hommes, tout simplement.
Et puis, vous vouliez aussi nous signaler la ressortie de la Palme d'Or et du dernier Festival de Cannes, qui a depuis tout raflé aux Oscars et que j'avais raté. Parasite, j'ai trop envie de le voir.
Ah, que vous avez toujours raté, alors si vous...
Je l'ai toujours raté, mais... Oui, parce qu'en fait, tant que l'invité vient pas dans l'émission, je le vois
bon,
pas le
bah,
film.
Si vous Bong Joon-ho, alors, film ressorti en plus pour l'occasion en noir et blanc la semaine dernière, une version tranchante selon son réalisateur. C'est vrai que ça rajoute une atmosphère assez étrange au film. Donc vraiment, que vous l'ayez vu ou pas, allez-y, c'est à ne pas rater.
Vous recommencez la version noir et blanc ou la version couleur ?
Les deux.
Les deux. Ouais, non, il faut, vous avez
la version
de
couleur,
vous,
hein. Je précise qu'elle est déjà disponible en VOD, DVD, etc. Donc vous pouvez aussi la louer, l'acheter chez vous pour la regarder.
Et puis deux petits films rapidement dont vous vouliez nous parler.
Le premier s'appelle Lettre à Franco. On est en 1936 avec le fascisme qui s'installe en Espagne. À Salamanque, l'écrivain Miguel de Unamuno décide de collaborer, de soutenir la rébellion militaire. Finalement, il va se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Puis retourner sa veste, ça nous fait réfléchir sur le lien entre la politique et l'art, sur le rôle des intellectuels dans la société, ça s'appelle Lettre à Franco.
Et puis Amare Amaro ?
Amare Amaro, là ça se passe dans un petit village sicilien avec Gaetano, un jeune français qui tient la boulangerie du coin et qui veut enterrer son frère dans le village. Les locaux s'y opposent, c'est la lutte entre plusieurs familles, on est, vous savez, dans ces vieilles familles siciliennes, dans une image très léchée, c'est aussi très agréable.
Merci beaucoup.
Mais
Mathieu,
je vous en prie.
Patricia Petitbon, qu'est-ce qui vous tente dans cette sélection ?
Ah, peut-être la famille sicilienne.
Ah, ouais. Amare Amaro.
Vous ouais. aviez le droit de dire rien, hein. Vous
bah
êtes
non,
totalement libre
non,
ici.
Non, mais oui.
Amare Amaro, merci beaucoup Mathieu Charrier. Vous restez avec nous, Patricia Petit.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Notre invitée, la cantatrice Patricia Petitbon, va revenir à son actualité, notamment à son nouvel album L'amour, la mort, la mer dans un instant. Avant, on va parler jeux vidéo, Philippe, avec Clément Le Saffre.
Oui, ça va vous faire plaisir, Patricia Petitbon. Vous êtes une grande gameuse, non, c'est ça l'information.
Oui, je game tous les jours.
Non, en vrai, vous jouez pas aux jeux vidéo, mais dans la famille, ça joue.
Je game avec ma voix.
Ouais. Et votre fils joue aux jeux vidéo.
Oui, bah comme tous les enfants, oui. Ah oui, mais oui, ils en connaissent un rayon là-dessus. Oui.
D'accord, bah lui aussi en connaît un rayon. Bonjour Clément.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Aujourd'hui, on sort le gâteau, on sort les bougies, on fête non pas un, mais deux anniversaires de jeux cultes.
Oui, et honneur aux plus âgés, ce sont les Sims, le célèbre simulateur de vie fête ses 20 ans ce mois-ci. 20 ans que l'on crée des maisons incroyables pour se rendre compte au bout d'une heure qu'on n'a plus assez d'argent pour mettre un toit. 20 ans que l'on s'efforce d'offrir la meilleure vie à ces Sims pour finalement les voir, non sans un certain sadisme, se noyer dans une piscine sans échelle.
Ah, c'est ça.
Les Sims, c'est ça, c'est le jeu bac à sable ultime. On peut tout faire, on part de zéro pour essayer d'avoir la meilleure vie virtuelle possible. On construit sa maison comme on veut, on design ses Sims de la tête aux pieds. Et puis on vit tout simplement dans ce monde, car les Sims, c'est aussi ça.
Oh, 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 dang, dang, bipso.
Ils ont les voix des Sims.
Ouais, un peu.
Voilà, ça. Attends, c'est les conversations complètement incompréhensibles.
Et juste un mot, Mathieu Charrier et Céline Dacosta sont morts de rire. Pourquoi c'est drôle, vous avez joué tous les deux?
Ah, c'était génial les Sims.
Ah, moi j'aimais pas du tout. Voilà.
Super, voilà.
Non mais fallait tout faire, fallait organiser des soirées avec les voisins pour notre code de sociabilité.
Oh là là. C'est vraiment un jeu où on jouait, on vivait une deuxième vie dans les Sims. Ouais. Et donc on les entendait parler comme ça aussi, avec c'est complètement culte. Mais ce langage, il veut rien dire et pourtant il a un nom, il a des codes, ça s'appelle le Simlish. C'est totalement improvisé. C'est fait de vocalises qui ont été inventées par les créateur du jeu, qui faisait n'importe quoi en studio pour imaginer ces mots-là. Donc ça a un côté un peu absurde, c'est ça les Sims, c'est que c'était drôle, ouais, en même temps réaliste, et il y avait une créativité illimitée, et ça a fait son succès.
Juste un mot, vous parlez à l'imparfait, ça existe plus du tout, ou
ça
le
existe,
jeu,
est, il existe toujours le jeu. Toujours, il est on toujours en pleine forme, on peut toujours le trouver, les
toujours.
Sims 4, et comment ça marche toujours, il y a toujours une communauté. Ouais.
Le deuxième anniversaire.
Et bien le deuxième, on va changer complètement de registre, on va passer dans l'Heroic Fantasy avec World of Warcraft, WoW, pour les intimes, qui est sorti, lui, il y a 15 ans en France. C'est un des jeux les plus populaires de tous les temps dans le genre MMORPG. Alors MMORPG, c'est quoi?
Ouais, c'est quoi?
C'est un jeu.
Attendez, je vais demander à Patricia Petit.
Notre gameuse.
C'est quoi MMORPG?
Un commissariat de police.
Non, vous trouverez jamais. Dites-le.
C'est un jeu de rôle massivement multijoueur, c'est-à-dire qu'en fait tout se joue en ligne. On joue tous ensemble, tous les joueurs jouent ensemble en ligne. Il n'y a pas d'histoire à proprement parler dans World of Warcraft. C'est plutôt un univers extrêmement riche que chacun explore comme il veut.
Il y a de la musique.
Et donc, c'est assez épique, on l'entend, on est dans des quêtes, etc. Pour jouer, il faut donc se créer son propre personnage qu'on design. Vous avez le choix entre les races de l'Alliance, ouais. c'est-à-dire les humains, les nains, les elfes, et celle de la Horde, les orques, les trolls, les minotaures. Il y a un côté très Seigneur des Anneaux.
Ouais, ouais, bien sûr.
Et l'objectif, c'est d'accomplir des quêtes seules ou à plusieurs afin d'augmenter le niveau de son personnage. C'est très simple, mais très efficace. Rendez-vous compte, World of Warcraft, c'est le jeu le plus rentable de tous les temps. En 15 ans, il a rapporté 9 milliards de dollars.
Waouh. Et il continue à rapporter 20 ans pour les Sims, 15 ans pour World of Warcraft. C'est quoi le secret de la longévité?
Et bah, le point commun, on le disait un peu pour les Sims, c'est la même chose pour World of Warcraft, c'est que ce sont des jeux de long terme. Il n'en sort pas un tous les ans comme FIFA ou Assassin's Creed ou Call of Duty, ce genre de jeu. Enfin, prenez World of Warcraft, le jeu il est sorti en 2005. Et aujourd'hui, c'est encore avec ce jeu-là que les gens qui jouent à World of Warcraft jouent. C'est-à-dire que vous achetez le jeu qui a 15 ans. Par contre, il est agrémenté d'extensions qui sortent tous les 2 ou 3 ans, qui rajoutent des quêtes, des personnages, des armes.
Ça aussi, il y a Mathieu Charry qui se moque de vous. Pourquoi ça vous fait marrer?
Non, mais parce qu'ils n'ont pas oublié de faire quand même rajouter des extensions.
Et les rajouts sont payants en général.
Évidemment, tout ça est payant.
Ça aurait été trop beau.
On n'atteint pas 9 milliards de dollars comme ça, juste avec des jeux gratuits. Et c'est la même chose pour les Sims. Le dernier volet, donc le 4, on le disait, il est sorti en 2014. Ça commence à dater quand même. Mmh. Mais il est mis à jour régulièrement avec du contenu payant. Par exemple, vous avez une extension pour aller à la fac, une autre pour être chef en cuisine, etc. Ce sont des jeux qui vieillissent.
Et à part le fils de Patricia Petitbon, il y a encore beaucoup de joueurs.
Bah oui, les Sims et World of Warcraft comptent chacun des millions de joueurs actifs dans le monde. Alors, ils sont plus au fait de leur gloire, mais ça reste quand même de grosses communautés qui sont très engagées, notamment bien grâce aux streamers. Vous savez, ces joueurs qui se filment en train de jouer en direct sur Twitch ou sur YouTube. Bah, c'est le cas de Trixie, par exemple. Elle a 24 ans, elle joue aux Sims depuis qu'elle a 8 ans. Et aujourd'hui, elle est suivie par plusieurs dizaines de milliers de fans grâce à ça.
Au début des Sims, c'est vrai qu'il y avait une prolifération du jeu. Quand on faisait des après-midi entre copines, on comparait nos maisons, on jouait ensemble. J'ai 24 ans et avec mes copines, on fait encore des concours de celle qui va créer la plus belle maison alors que j'ai 24 ans. C'est un jeu qui perdure et qui perdurera parce qu'en plus, la communauté des Sims est très engagée auprès du jeu. Pour moi, les Sims n'ont pas de concurrence. C'est le seul jeu de simulation de vie. Et à mon avis, il ne se fera jamais dépasser par un autre.
Voilà, et on va terminer avec un petit mot de promo puisque Trixie, vous l'entendrez dans le prochain podcast d'Europe 1 Studio. Ça s'appelle Gamers, ça racontera les histoires secrètes des jeux vidéo cultes. Ouais. J'ai pu écouter, moi, le premier épisode en avant-première. Je peux vous dire que vous allez vous régaler, c'est hyper, hyper intéressant.
Voilà, et je salue les parents de Trixie, 24 ans.
La dernière partie de Culture Média, c'est dans un instant et ce sera toujours avec notre invitée, la cantatrice Patricia Petitbon sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
C'est la dernière partie de Culture Média. Autour de cette table avec nous, Mathieu Charrier, Clément Le Saffre et notre invitée, la cantatrice Patricia Petitbon, qui revient, son premier album depuis 7 ans, L'amour, la mort, la mère, il est sorti le 14 février.
Vous disiez que ce chant, ce n'était pas du chant d'opéra, du chant opératique, comme disent les gens savants. Vous chantiez de manière naturelle. Vous avez l'impression que c'est naturel?
Oui, c'est naturel, bon, évidemment.
Parce que pour moi, qui suis un profane, c'est un tour de force que vous faites.
Oui, enfin, je veux dire naturel dans le langage d'une chanteuse d'opéra, tout de même.
Ouais.
Voilà, je ne suis pas une chanteuse de pop, mais disons que la mélodie est tellement pure que pas besoin de trop d'artifice, juste poser la voix et l'utiliser simplement.
Parfois, sans artifice, il n'y a même pas de mélodie. C'est juste une seule note tenue et vous disiez c'est pas de la pop mais quand même vous avez repris John Lennon.
Oui, oui parce que John Lennon c'est une mélodie que tout le monde connaît. Souvent les grands compositeurs prennent des mélodies très simples, très populaires et ça devient des choses. Voilà, ça vient souvent du populaire d'ailleurs les grandes mélodies. Mais on a retravaillé, on a refait un arrangement et l'arrangement est de Laurent Levesque, un compositeur de films. Donc voilà, on lui a retaillé un costume. En quelque sorte, pour qu'il puisse s'intégrer à l'esthétique aussi de ce voyage sonore.
Vous savez ce qui m'a le plus impressionné dans le titre de John Lennon par vous, Patricia Petitbon, le final.
Eh oui.
Tête des gens autour de la table. On n'arrive pas à le croire.
On a enregistré dans une église.
Ouais.
Et puis, bon, vous savez, des fois, il y a des moments comme ça, assez incroyables. On est traversé par le son. On l'appelle, il vient d'un infiniment petit. Et puis, le son arrive et il est pile là où il doit être. Quoi.
Vous voulez dire qu'il sort de vous presque malgré vous ?
Oui, malgré nous. Parce que c'est le moment pour qu'il existe, je ne sais pas quoi vous dire, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi un peu de christique dans ce son, Et aussi dans ce disque, quelque part, mais de façon sympathique. Hein.
Je confirme. Voilà. Il y a également des créations. Exemple, Chant des Lendemains, c'est une chanson de Thierry Esquette sur un texte d'Olivier Py. Oui. Et l'année prochaine, si je suis bien informé, vous allez donner un opéra au Théâtre des Champs-Élysées, c'est ça, avec ces deux auteurs, un opéra qu'ils ont écrit pour vous.
Oui. Je ne serai pas la seule, hein. J'imagine. Mais quand même,
D'avoir un opéra qu'on écrit pour soi, c'est donné à très peu de gens.
Ça existe. C'est-à-dire que les compositeurs sont vivants aujourd'hui, vous savez. Oui. C'est ça qui est. Voilà.
Non, mais je ne pensais pas que dans ma vie, j'allais croiser quelqu'un à qui j'aurais pu dire on va écrire un opéra pour vous. Voilà, donc je suis très, très flatté.
Non, on est plusieurs. On
sera la suite de La Voix humaine, c'est ça?
Oui.
Alors, on va dire ce qu'est La Voix humaine. De Cocteau.
C'est un texte de Cocteau, de Poulenc. Et c'est une femme qui passe son temps au téléphone. Bon, là, il n'y aura peut-être pas de téléphone. Hein, mais donc, qui est quittée par un homme. Et donc, allô, vous voyez. Si je fais la version comique.
Hélène Manarino nous l'a dit tout à l'heure. C'est cette info qui est arrivée de New York. Le Metropolitan Opera va accueillir la première chanteuse trans. Écoutez comment il ou elle chante. Il s'appelle Lucia Lucas, il a souhaité ne jamais abandonner sa voix de baryton, mais sauf qu'il est en train d'accomplir sa transition vers un corps de femme. Je voulais avoir juste votre réaction.
Bah écoutez, c'est une très belle voix.
Ouais.
C'est une très belle voix et c'est aussi l'acceptation dans notre société de ce qui est différent, des personnes différentes, de leur singularité. Il y a beaucoup de films d'ailleurs qui mettent à l'honneur, souvent des films espagnols et récemment...
Génial qui sort bientôt, qui s'appelle Miss, et il y a eu effectivement pas mal de films Girl de Lucas.
C'est c'est très émouvant en fait de voir ce parcours d'hommes et de femmes, enfin ce mélange.
Votre parcours vocal, Patricia Petitbon, le dernier épisode, c'est ce nouvel album, L'amour, la mort, la mer. On entend cette reprise d'un classique qui a été repris par d'autres, notamment les Christians. Il y a également une tournée, vous serez le 11 mai à Paris au Théâtre de l'Athénée, au Mans le 13, à Versailles le 2 juillet à l'Opéra Royal, rien que ça, et à Brive-la-Gaillarde le 10 juillet. Merci beaucoup Patricia Petitbon d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Merci à tous et toutes. La suite demain. Ça va être pas facile d'enchaîner, mais on va enchaîner quand même. Demain, Culture Média à 9h. J'ai pas dit salut à Clément Le Saffre. J'ai pas dit à notre stagiaire, Julie Debona, qui a fait un bruit. C'était un enfer. On pouvait pas la tenir. Merci, Mathieu Charrier. Merci à vous. Je trouve plus votre nom.
Ouais,
Céline
Dacosta, c'est
pas grave. Oui, Céline
Dacosta, elle a avec vous depuis le début de l'année.
Comment?
Elle est avec vous depuis le début de l'année.
Je sais, vous savez, c'est un acte manqué. Patricia Petitbon, je vous informe que demain, nous serons ici avec Christophe Ondelat. Et puis, Kad Merad, il viendra pour parler de la pièce Ami qu'il met en scène à partir du 3 mars au théâtre de la Chaudière. Salut Céline, je vous dis à demain. Bonne journée sur Europe 1.
Salut Philippe Vandel. Anne Romanoff débarque dans un instant avec toute sa bande et leurs invités pour vous faire du bien sur Europe 1.